BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos le vendredi. Bienvenue à tous, on vous accompagne en direct sur BFM Business, notre chaîne YouTube, également BFM Crypto, bien sûr nos podcasts et replays, nos NFT à nous, nos talents non fongibles nous rejoignent comme chaque semaine. Claire Balva, elle est la directrice générale de L'Adam et nous accompagne chaque vendredi. Bienvenue Claire, également à nos côtés cette semaine en plateau ici à Paris, Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Hacher avec un grand H, CEO de Meria. Bienvenue également Owen. On a une actualité intéressante encore cette semaine, on va la parcourir, on va condenser cela tout en quoi ? Grosse vingtaine de minutes, mais d'abord on va mesurer les seuils techniques avec Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Salut Guillaume.
Vincent, le cours du Bitcoin on est à 115 000 dollars à peu près cet après-midi sur le Bitcoin. Cours du Bitcoin qui a suivi une tendance haussière depuis début septembre à contre-courant d'une saisonnalité d'habitude défavorable en septembre. On en est où sur le plan technique désormais ?
Ouais, effectivement, il y avait une séquence, rappelez-vous, de prise de profit qui avait démarré vers la mi-août. 14 août exactement, il y a eu un record historique, alors un peu bref, il a été fait très rapidement vers les 124 000 dollars. Le marché est en phase de prise de profit et puis septembre est arrivé. Septembre, vous l'avez dit, c'est pas le mois le plus favorable en termes de saisonnalité historiquement pour Bitcoin, ni d'ailleurs pour le marché action américain. Et bien là, sur ce mois, en fait, même depuis la séance du 1er septembre, le cours du Bitcoin rebondit. En fait, ce que l'on sait sur, en général, sur les fins de cycle Bitcoin, on a trois exemples passés, c'est que le mois de septembre est souvent un mois de transition où peut se faire un creux majeur avant une période statistique nettement plus favorable sur octobre-novembre, où là, on est censé aller chercher le top de cycle. Donc, pour vous répondre précisément, en termes d'analyse technique, la tendance, elle reste haussière. La tendance haussière, elle est, la tendance de fond reste haussière. Et à court terme, le marché reste soutenu par un support à 109 000, 110 000 dollars. Et moi, je suis toujours convaincu que le sommet cycle n'a pas été fait à 124 000 dollars, qu'il sera fait quelque part entre la mi-octobre et le début du mois de décembre. Vous voyez, j'essaye d'être précis. Et quelque part entre 140 et 160 000 dollars. Je ne peux pas être plus précis, cher Guillaume.
Ouais, chapeau, vous vous mouillez là. On va suivre la Fed, la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Le marché anticipe désormais des baisses de taux de la part de la Fed. Est-ce qu'il faudra attendre donc mercredi la décision pour que tout se débloque ?
Oui, je le pense même très fortement. Alors, c'est l'attente principale du marché. La Fed qui n'a pas pivoté depuis le mois de décembre 2024, à la différence de toutes les grandes banques centrales majeures. Le marché d'action américain, il est sur ses records. Le S&P 500 est sur ses records. En termes de valo, on est sur les records de fin 2021. Si vous voulez, pour envisager de nouveaux records des actifs risqués en bourse, donc j'en parle à S&P 500, Bitcoin, et même en fait de manière plus générale, la profondeur des altcoins, il faut une série de baisses du taux d'intérêt des fonds fédéraux d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est une trajectoire qui, justement, pourrait commencer à partir de mercredi prochain. En tout cas, nous en avons besoin. C'est impératif pour envisager une fin de cycle Bitcoin qui se fasse au-delà des 124 000 dollars.
L'Ether pendant ce temps, parce qu'on a le Bitcoin, mais l'Ether est à 4005 là cet après-midi. Est-ce que en termes de performance, l'Ether rivalise, confirme qu'il rivalise à nouveau avec Bitcoin ? Je parle bien en termes de performance, pas de cours, ou au contraire, ça s'essouffle à nouveau ?
Oui, alors c'est depuis le début de l'été, c'est le jeton qui a pris un peu le lead. Il y a eu un retournement aussi du ratio entre ETH et BTC. Par contre, à court terme, cette phase de surperformance, elle s'est un peu mise en pause. Mais pareil, moi, je pense que le jeton Ether ira au-delà du sommet du cycle précédent, c'est à peu près les 4900 dollars. Là, on se reprend. Je me suis mouillé pour Bitcoin. Je vous ai dit 140, 160 en fin de cycle. Je vais mouiller pour ETH. Je vais vous dire 5500, 6000 dollars. Lorsqu'on arrivera sur ces zones de prix, franchement, là, il sera temps de prendre ses profits.
On est ravis que vous nous accompagniez à nouveau et régulièrement, Vincent, parce qu'à chaque fois, vous vous mouillez, vous êtes précis et vous jouez pleinement le jeu. Merci beaucoup, Vincent Gann, analyste technique indépendant. De quoi, par quoi la semaine a-t-elle été marquée ? Eh bien, par ces liens croissants, c'est vrai, entre l'univers crypto et la finance traditionnelle. Tiens, Wall Street, le Nasdaq prône une tokenisation totale. Le Nasdaq, qui est ce géant boursier américain, a déposé auprès de la SEC cette proposition majeure de permettre l'échange d'actions et d'ETF en token sur le carnet d'ordre principal. On va en parler. Bitcoin, nouveau record du hash rate pendant ce temps, cette semaine. Le Bitcoin est-il aux actifs ce que l'avion est au moyen de transport, à savoir le plus sûr d'entre tous. Et puis la dette américaine, c'est un conseiller de Vladimir Poutine qui agite cette idée. Les stablecoin dollars pourraient permettre aux États-Unis d'effacer l'ensemble de leurs dettes. En tout cas, ils soupçonnent les Américains de vouloir utiliser les stablecoins pour effacer leurs dettes. Alors évidemment, oui, on pourra mettre des obligations du Trésor dans les stablecoins, mais de là à effacer totalement la dette américaine, est-ce qu'on est dans le fantasme ou pas ? C'est une question aussi à laquelle nos pros devront répondre dans un instant. Les pros des cryptos, votre machine à condenser une semaine d'actu. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Ils viennent de nous rejoindre. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen.
Bonjour.
C'est à la fin que je vous demanderai combien d'abonnés. Parce que pendant les pros des cryptos, le nombre, leur nombre aura sans doute encore augmenté. Claire Balva aussi nous accompagne, la directrice générale de l'ADAN. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Combien d'adhérents d'ailleurs à l'ADAN, Claire ?
Près de 150.
150, ouais. Ben oui, mais les décideurs, c'est ceux qui comptent.
Ben complètement, ce sont des entreprises pour le coup.
Oui.
Et donc ce sont des entreprises du secteur crypto en France et en Europe.
Alors il y a l'ADAN ici en France, j'étais au Vietnam là cet été, j'ai vu l'ADAN vietnamien d'ailleurs, l'association pour défense des cryptoactifs, vraiment tout proche d'ailleurs des bureaux du gouvernement, c'est assez marrant de les voir là-bas dans ce quartier-là. Et puis aux États-Unis, on voit que l'univers crypto a infusé dans la politique, dans les décisions de l'administration Trump, y compris d'ailleurs au sein de la SEC. La SEC, le gendarme des marchés américains, qui confirme sa conversion au crypto. Il se trouve que son patron Paul Atkins, cette semaine, a eu des mots très forts. Il a expliqué, Owen, lors d'une table ronde, que, je cite, « le temps de la crypto est venu ».
C'est quelque chose de très fort, surtout quand on fait le parallèle avec son prédécesseur, Gary Gensler, qui, pour le coup, était vraiment contre les crypto-monnaies et contre leur développement. Donc, c'est non seulement une position forte, en plus une position du régulateur américain, en tout cas de son nouveau chairman, et surtout, il a précisé que la plupart des crypto-monnaies ne sont pas des titres. Alors, il a dit, attention, évidemment, c'est encadré, c'est-à-dire que si une crypto-monnaie est vendue comme un investissement, elle sera cadrée comme les titres financiers, évidemment, mais il explique que c'est une nouvelle ère et que là où à l'époque c'était vraiment l'enforcement, c'est-à-dire les procès qui s'enchaînaient de la SEC vers les projets crypto, aujourd'hui ce sont des règles claires qui vont permettre un développement et ils vont entre guillemets cadrer ce marché par l'écoute et la compréhension et non pas par la sanction directe comme la SEC le faisait avant.
Il a en quelque sorte le patron de la SEC, on rêve pas, hein, pas à peine de vous pincer, c'est la réalité. Il a expliqué que les cryptos étaient quasi inarrêtables, il a même cité Victor Hugo. On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. Voilà. Signé la SEC à propos des cryptos.
C'est quand même
c'est
fort.
Fou, hein. Ouais.
On n'aurait pas parié là-dessus il y a 2 ans.
Non, comme quoi, tout va très vite.
Effectivement. Alors, on fait tous du Montessori hein, vis-à-vis des cryptos. On apprend tous en marchant. Voilà, les différents acteurs expérimentent, testent et ajustent. Les banques sentent bien que les rendements de certaines cryptos, même des stablecoins, leur font concurrence, par exemple. Et les banques locales sont particulièrement menacées. Ces banques qui dépendent des dépôts de leurs clients. Et bien, selon Bitwise, les banques locales auraient intérêt à augmenter les intérêts versés à leurs clients si elles espèrent pouvoir résister aux stablecoins, Claire.
Effectivement, c'est le directeur des investissements de Bitwise qui réagit à un rapport de Bloomberg cette semaine, rapport qui fait état justement des craintes des banques vis-à-vis des stablecoins. Et lui, il voit cette accusation comme étant absurde et injuste. Et ce qu'il dit, c'est que les banques ont utilisé les dépôts de leurs clients comme une source gratuite de capital pour se rémunérer grassement sans reverser les intérêts à leurs clients. Et ce qu'il dit, c'est que les stablecoins vont participer à changer ça, puisque les stablecoins créent une nouvelle concurrence et que les particuliers peuvent utiliser les stablecoins comme une forme de dépôt pour aller toucher des intérêts qui sont d'ailleurs plus élevés que dans certains produits financiers classiques. Alors évidemment, ça comporte des risques. Ce qu'il dit, c'est que cette compétition est plutôt saine et que ça devrait inciter les banques locales, si elles veulent rester compétitives, à verser des intérêts à leurs clients sur leurs dépôts. Alors, je précise évidemment qu'il n'y a pas que les stablecoins hein, pour aller toucher des intérêts et que certaines entreprises désormais rémunèrent les comptes courants. Donc, on voit bien que la concurrence devient de plus en plus féroce, y compris au sein du milieu financier classique.
Oui, c'est une alerte là de Bitwise, une alerte aux banques locales. Vous avez intérêt à mieux rémunérer vos clients, sinon ils vont privilégier d'autres choses et notamment les stablecoins. Ils vont vous zapper, vous, les banques.
Tout à fait, et on le sait, les ratios sont très importants pour les banques, entre les dépôts des clients et ce qu'ils peuvent faire, et toute la machinerie financière qu'ils peuvent déployer, et les services qu'ils peuvent proposer à d'autres. Après, ça pose également une question. Pourquoi est-ce que les banques ne proposent pas des stablecoins à leurs clients? À ce moment-là, pourquoi est-ce que vous ne seriez pas le dépositaire de ces stablecoins? Vous pourriez peut-être vous aussi générer et continuer à faire le métier que vous faites, et qui est l'un des plus vieux métiers aussi du monde, mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que ces solutions n'ont pas été adoptées? Et comme on ne peut pas arrêter les idées, quelque chose me dit que ça va changer très bientôt.
Les banques apprennent en mode Montessori, donc face aux cryptos. Chacune avance comme elle peut. Cette semaine, on a appris que BBVA et Ripple allaient collaborer, la banque espagnole et Ripple, qui s'associent pour proposer des services de garde crypto. Alors, jusqu'où ira cette transformation de la finance traditionnelle? Figurez-vous que le géant boursier américain, le Nasdaq, a déposé auprès de la SEC une proposition, une demande majeure, permettre l'échange d'actions et d'ETF en token sur le carnet d'ordre principal. Pourquoi faire et est-ce que ça a une chance d'aboutir, Owen?
Alors, ça a vraiment une chance d'aboutir parce que ça a été déposé par le Nasdaq eux-mêmes. Hein. C'est un dossier qui a été déposé sur leur volonté de pouvoir utiliser les mêmes carnets d'ordre mais pour échanger également des titres tokenisés. En fait, il faut, faut vraiment comprendre l'état d'esprit dans lequel ils se positionnent. Pour eux, la tokenisation, à partir du moment où c'est sur le même titre, même s'il est tokenisé ou non, et que ça donne les mêmes droits, par exemple le droit de la détention de la part, mais également le droit aux bénéfices, comme les dividendes, si c'est le même titre et que c'est le même droit, pourquoi ça ne pourrait pas être échangé dans le même carnet d'ordre ? Finalement, c'est au moment du règlement que le Nasdaq va devoir faire cette compensation de paiement à l'acheteur ou au vendeur, en donnant tout simplement un titre dans un portefeuille traditionnel, ou alors en le donnant directement on-chain, si c'est un token. Mais pour le coup, c'est bel et bien le support, le socle, qui fait que le titre est tokenisé ou non, et à ce moment-là, si ça ne change rien au droit, ni même à la propriété et à la détention, il se pourrait que les actions tokenisées soient échangées, tout comme des actions.
Oui, et là vous venez d'expliquer pourquoi il serait légitime de voir une tokenisation du marché actions, mais qu'est-ce que ça apporterait en plus, quoi ? Enfin, je veux dire, quand on est actionnaire, on a déjà des droits de vote aux assemblées générales, ça existe déjà. Qu'apporterait en plus les tokens au marché actions ?
Principalement de la traçabilité, également sur de la portabilité, parce que pour le coup, on va détenir son titre différemment. Quand on va détenir son titre dans un portefeuille, c'est une entreprise qui la détient pour nous. Là, on va devenir son propre custodian de ce titre. Ça permet de faire énormément de choses, pas dans un premier temps dans le carnet d'ordre, mais on va pouvoir naturellement échanger des demi, des centièmes de titres, et donc ça va permettre quelque chose sur le côté la fragmentation du titre en lui-même.
On pourra s'acheter des titres Hermès ou Ferrari pour beaucoup moins cher, quoi.
Enfin, tout à fait, et il y aura peut-être un petit peu moins de scission de ces fameuses actions qui sont divisées par 10 pour augmenter leur quantité. Ça va permettre de faire beaucoup plus de choses, mais là pour le coup, c'est vraiment une question de mise à jour du support, parce que ça modifie quand même toute la machine derrière, est-ce que le Nasdaq va devoir gérer.
Et c'est ça, c'est l'opérateur lui-même qui demande, c'est le Nasdaq, c'est pour ça que c'est très très fort. Ils sont en avance, là aussi, encore une fois, sur Euronext, par exemple, la plateforme pan-européenne.
Bien sûr, le Nasdaq a bien compris qu'il y avait là une amélioration d'un point de vue technique, informatique, pour eux. Et ils sont nettement en avance par rapport à Euronext, ou même par rapport à la bourse japonaise, qui, elles, ont bien vu cet intérêt aussi, mais on voit une différence en termes d'ambition. Pour l'instant, on est plutôt sur des tests, sur des projets pilotes, sur des titres numériques, sur des obligations. On n'est pas du tout sur un projet à l'échelle au niveau du carnet d'ordre principal. Donc, on voit bien là aussi que les États-Unis mènent une vraie stratégie pour faire de la crypto vraiment leur cheval de bataille sur ce nouveau mandat de Donald Trump.
On a le sentiment que Euronext ou les Japonais sont partis pour une construction sur un siècle. Les Américains, ils vont vouloir faire ça en 5 ans, quoi. Enfin, on va voir.
Même pas. L'objectif, c'est lancement 2026.
Ah. Bon. Et décidément, les cryptos qui donnent le tempo de la bourse aussi de plus en plus, en tout cas, sont amenés à le donner. Elles cotent les cryptos 24-24, 7 jours sur 7. Aux États-Unis, la SEC, encore elle, réfléchit à faire pareil pour Wall Street, à savoir une cotation comme sur les cryptos, 24-24, 7 jours sur 7.
Tout à fait. Alors là, c'est la SEC, mais également la CFTC. Donc là, c'est les deux régulateurs qui s'alignent et qui veulent le faire. En tout cas, ils étudient la question et ça aurait un très gros impact. Déjà, même si c'est déjà connu hein, sur les matières premières ou sur le Forex, pour les traders qui sont derrière, ça fait presque 10 ans qu'on est dans la crypto-monnaie. C'est une certaine souffrance. Et pour le coup, ça ne s'arrête jamais. Il faut le savoir, ça va booster le monde de la finance. Probablement que les marchés à l'international vont essayer de s'aligner sur ce qui se passe également aux États-Unis. Il y a des petits avantages, évidemment. Bon, le marché tourne 24-24, il y aura peut-être plus de volume d'échange et peut-être plus de commissions. Il y en a certains qui, évidemment, vont tirer quelques profits de cette situation. Ça va également réduire les gaps qu'il y a à l'ouverture et à la fermeture du marché, puisqu'il ne ferme plus. Il n'y a plus du tout de gap, et puis ça vient lisser ses prix. Mais il y a naturellement des impacts qui peuvent également être négatifs, comme par exemple la surveillance, qui doit être également faite de nuit, des marchés. Il y a beaucoup moins de volume et donc de liquidité la nuit, ce qui veut donc dire qu'il pourrait y avoir des actes malveillants qui viendraient affecter beaucoup plus certains titres et gonfler les spreads à certains moments. Donc, je pense que, comme toute adaptation, il va y avoir quelques surprises au départ. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste allumer la lumière plus longtemps pour que la séance dure plus longtemps, mais c'est bel et bien changer toute la plomberie de ce que sont les marchés financiers aujourd'hui.
Oui, et ça pourrira vos week-ends. Enfin, les week-ends de ceux qui d'habitude sont tranquilles. Hein, en bourse, le week-end, il n'y a pas de cotation.
Exactement. Et puis même en termes de rythme au niveau médiatique, au niveau opérationnel, oui. Aujourd'hui, les marchés sont très rythmés par une ouverture, une fermeture. Et donc, ça va vraiment changer toute une industrie d'avoir ces marchés ouverts tout le temps.
Oui, et ne serait-ce que le calendrier, le rythme des publications d'entreprises. Par exemple, les entreprises sont supposées publier hors séance. Bon, voilà. Ce sera intéressant de voir comment, effectivement, toute cette plomberie finit par s'adapter si les choses, évidemment, finissent par aboutir à une cotation 24-24, 7 jours sur 7 des marchés. Les pros des cryptos, la machine a condensé toute l'actu de la semaine en 20 grosses minutes. La démocratisation dépendra aussi des plateformes crypto. Est-ce qu'elles vont se démocratiser, les cryptos, comme l'aérien a fini par se démocratiser grâce au low cost ces 30 dernières années? Il se trouve que le fondateur d'EasyJet, la compagnie low cost EasyJet, compte à présent lancer une plateforme low cost, easy je sais pas quoi, de trading de crypto.
Easy Bitcoin pour le coup. Voilà. Alors, C'est un broker, ils sont en partenariat avec Uphold, qui est une boîte crypto qui est beaucoup plus connue dans ce secteur-là. C'est principalement pour les États-Unis dans un premier temps, mais également pour l'Angleterre. En tout cas, c'est le marché qui vise. Pas d'Europe pour l'instant, on n'a pas entendu de solution MiCA Compliance. Leur solution, c'est de permettre avec un minimum de frais d'acheter très simplement du Bitcoin. Donc c'est vraiment une première étape, c'est un premier pas, mais ça montre que EasyJet, c'est un groupe qui va bien au-delà de l'aviation et qui est capable de prendre ce genre de risque, et en tout cas qui prend ce genre de pari, même si ça semble bien loin de l'aviation.
Oui.
C'est surtout un signal que globalement l'industrie va bien et que les prix sont hauts. Quand on voit des entreprises qui n'ont rien à voir avec la crypto se positionner sur la crypto, lancer des plateformes, lancer des services, un temps on a vu des ICO, des NFT, etc. Ça montre quand même que Bitcoin a le vent en poupe. Si des compagnies aériennes ou des entreprises classiques vont dessus, c'est quand même un signal, je dirais, positif pour l'industrie. Maintenant, là aussi, il faut prendre un peu de recul parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les 10 dernières années.
Il y a un tout petit détail intéressant. Oui. Si on fait un dépôt en dollars et qu'on est américain, on peut obtenir 4,5% d'intérêt sur son compte et être payé, en tout cas ses intérêts, en Bitcoin directement. Pour ceux qui veulent faire dormir une épargne et construire un petit pécule en crypto-monnaie de côté.
Bon, tiens, puisqu'on parle d'avion, est-ce que c'est le moyen le plus sûr du monde? Vous avez peur en avion l'un et l'autre, honnêtement?
Je sais que c'est le plus sûr du monde et pourtant, en avion, j'ai quand même plus peur que quand je démarre ma voiture.
Vous n'allez encore qu'en ferry, du coup.
Ah non, je prends quand même ce raccourci.
Claire.
Ouais, je préfère rester sur terre ou en bateau.
Ah oui, vous êtes mieux sur terre ou sur mer. Ouais. Alors, est-ce que le Bitcoin, c'est comme l'avion dans l'univers des actifs, à savoir le moyen de transport le plus sûr du monde, l'actif le plus sûr du monde? Il se trouve que le niveau de hash rate a atteint un nouveau record début septembre. Qu'est-ce que, en termes de sécurité, on parle bien de sécurité, ça signifie ça, Claire?
Oui, le hash rate, c'est la puissance de calcul qui est déployée sur le réseau Bitcoin. Et donc, effectivement, on atteint là 1000 exahash pour la première fois. Donc, c'est vraiment un record qui est battu en termes de puissance de calcul. Ce que ça veut dire, c'est d'une part que l'industrie du minage va globalement bien, puisqu'on le voit, les mineurs laissent leurs machines allumées. Donc, on peut supposer qu'ils sont plutôt rentables en ce moment. Et ça veut dire aussi que la difficulté du minage, elle, s'ajuste. Et donc, là aussi, on est en train de battre un record en termes de difficulté. Pourquoi? Parce que si vous avez de plus en plus de puissance de calcul déployée sur le réseau, le risque, évidemment, c'est que ça devienne de plus en plus facile et rapide de valider un bloc de transaction. Or, le protocole Bitcoin est conçu de telle manière à ce que ça prenne toujours à peu près 10 minutes. Et donc, la difficulté se réajuste toutes les 2 semaines environ. Et donc, on assiste là aussi à un record en termes de difficulté d'équations mathématiques sur le réseau Bitcoin. Donc, on voit bien que le réseau est de plus en plus sécurisé et que l'industrie du minage, là aussi, se développe en ce moment.
Oui, ce qui exclut du coup les particuliers, hein. Enfin, ils ont du mal à suivre les particuliers avec effectivement cette barre extrêmement haute pour parvenir à émettre des bitcoins. Les besoins en énergie sont absolument gigantesques. Mais parfois, certains particuliers arrivent quand même à émerger et à miner du bitcoin. Un mineur en solo vient d'empocher combien ? 347 000 dollars en bitcoin. Comment est-ce qu'il a fait ?
Alors, c'est ce qu'on appelle un solo miner. Ouais. Pour le coup, c'est pas de surprise là-dessus. C'est intéressant parce que ça permet vraiment de comprendre le mot difficulté de minage et le mot minage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le minage, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé et que ça devient vraiment difficile de, ce qu'on appelle taper un bloc, valider un bloc de transaction sur Bitcoin, généralement, les mineurs se regroupent en conglomérats. On appelle ça des pools de minage. Ils sont très nombreux, ils gagnent donc beaucoup plus souvent, mais dès qu'ils ont une récompense, ils la partagent en beaucoup plus de monde. Il y a des mineurs qui restent tout seuls, qui vont miner, fournir de la puissance de calcul, 1, 2, 3 ans, sans pour autant avoir la chance de taper un bloc. Mais des fois, il y a des gens qui ont de la chance, et même si ce calcul est très difficile, d'où la difficulté de minage, qui fait qu'augmenter plus il y a de mineurs sur le réseau, eh bien, avec même un petit ordinateur ou un mineur de crypto-monnaie qui est suffisamment puissant, on peut avoir de la chance et tout simplement trouver le résultat du calcul rapidement. Et quand en plus c'est quelqu'un qui est tout seul dans son coin, eh bien il ne partage la récompense avec personne. Et ça, c'est deux choses à comprendre. Du coup, c'est que le minage vient de là, on part avec sa pioche, on ne sait pas si on va trouver de l'or, et c'est pour ça qu'on appelle ça des mineurs de crypto-monnaie. Et on peut toujours gagner au loto. On n'est pas à l'abri d'un coup de chance, et en l'occurrence, c'est le cas de cette personne qui a tapé un peu plus de 3 bitcoins dans son bloc, et ça participe aussi à la décentralisation du réseau. Oui. Car si une poule de minage est corrompue, il y a quand même des gens qui, tout seuls, viennent faire leur travail de manière indépendante sur le réseau.
Et la chance existe. Alors, est-ce que le quantique, quand il apparaîtra, annulera, éliminera la chance et le hasard? C'est une question qu'on se posera tout à l'heure. BFM Crypto, en podcast et replay, bien sûr, tout au long du week-end aussi, les pros des cryptos, votre numéro du vendredi. Les stablecoins, pendant ce temps, continuent de cartonner. C'est quand même le phénomène depuis plusieurs mois. On a de nouveaux chiffres qui montrent la poursuite claire de l'expansion des stablecoins et Ether qui en profite.
Oui,
Ethereum, pardon, pour être précis. Oui.
Exactement. Les stablecoins battent un nouveau record en termes de capitalisation. On atteint 270 milliards de dollars de capitalisation. Ça a à peu près doublé en un an et demi, donc c'est absolument énorme. Et cette capitalisation, elle se situe principalement à plus de 50% sur le réseau Ethereum. Et donc Ethereum est toujours le grand gagnant, alors à la fois dans la finance décentralisée, mais aussi en termes d'hébergement de ces fameux stablecoins. On sait qu'Ethereum a souffert par le passé, tant en termes de prix, mais aussi face à certains autres concurrents. Je pense à Solana, par exemple. Aujourd'hui, on voit bien qu'Ethereum, quand même, garde sa place de leader dans ce secteur-là. Et si on regarde ensuite les autres blockchains, la deuxième blockchain en termes de capitalisation des stablecoins, pour à peu près 29% de leur capitalisation, c'est Tron, qui est une blockchain qu'on voit assez peu dans le monde des entreprises, mais qui est très utilisée pour le trading. Et si on parle de Solana, par exemple, qui est un concurrent assez sérieux d'Ethereum en termes de rapidité des transactions.
On entend beaucoup parler de Solana, mais c'est le troisième.
En fait, c'est seulement le troisième et très loin. Très, très loin derrière Ethereum et Tron. Sur les données que j'ai pu consulter, on est à moins de 5% de la capitalisation des stablecoins qui était mise sur Solana. Maintenant, quand on regarde les stratégies des différents émetteurs de stablecoins, on voit bien qu'ils ont de plus en plus des stratégies multi-chain, c'est-à-dire qu'ils vont émettre leur stablecoin sur plusieurs blockchains en même temps et qu'ensuite, c'est l'utilisation qui fera gagner ou non une de ces chaînes.
Owen,
c'est tellement rentable d'émettre un stablecoin, tout le monde se jette dessus, à tel point que après avoir contrôlé l'actif, les boîtes comme Tether ou Circle veulent maintenant lancer leur propre réseau. Ils veulent contrôler l'infrastructure et potentiellement remplacer et créer des nouvelles blockchains qui vont venir prendre la place derrière Ethereum, de Tron et des autres réseaux. Ce qu'il faut vraiment comprendre là-dessus, c'est que, et c'est mon dernier sujet que j'ai traité, donc c'est un sujet qui me tient à cœur surtout en ce moment, il y a un vrai bull run sur les stablecoins, puisqu'il y a une entrée folle des institutions. Il y a les pays émergents qui commencent à les utiliser, car c'est là le côté transférable de la blockchain, mais sans la volatilité. Et en plus de ça, on peut carrément obtenir des rendements sur son dollar où qu'on soit dans le monde avec son téléphone. C'est quelque chose d'assez dingue. Et on est passé de plus de 100% de croissance, à peu près 125 milliards de dollars de stablecoin à 250 en 12 mois. Et pour le coup, la courbe, si vous l'avez sous les yeux, elle est impressionnante. C'est un trait. C'est linéaire, c'est tous les jours. Chaque minute qui passe, il y a de plus en plus de stablecoins. Ça aspire littéralement la liquidité du monde traditionnel.
Oui, et alors dans ces stablecoins dollars, en tout cas, il va y avoir de plus en plus d'obligations américaines. Ça participe au rendement d'ailleurs des stablecoins, puisque les obligations américaines apportent du rendement plus élevé que les taux français, par exemple. On est à 4% là, sur le 10 ans américain. Hey, c'est du rendement, les amis. Mais du coup, certains soupçonnent les Américains de vouloir, grâce aux stablecoins et aux obligations qu'ils détiennent, peut-être parvenir à limiter, voire pourquoi pas effacer leurs dettes grâce aux stablecoins. C'est l'avis, en tout cas, le soupçon émis cette semaine par un conseiller de Vladimir Poutine, il s'appelle Dmitri Kobiakov, et il soupçonne Washington de miser sur les stablecoins dollars pour carrément effacer toute la dette américaine. Est-ce que c'est imaginable, ça, Claire ?
Alors, effacer, je ne sais pas, mais très clairement, la raison principale pour laquelle les États-Unis favorisent les stablecoins, c'est parce que ça les arrange et que ça permet de renforcer l'hégémonie du dollar et de financer aussi leur économie en permettant à des étrangers de placer leur argent en stablecoin et donc en finançant la dette américaine. Donc bien sûr que ça sert les États-Unis de pousser ces stablecoins. Donc je trouve quelque part que les propos du conseiller de Vladimir Poutine font preuve d'une forme de lucidité.
Oui. Et c'est de bonne guerre de la part des Américains, vouloir limiter leur dette, bravo.
Bien sûr. Alors toute la question maintenant, c'est quelle va être l'attitude de la Russie face aux stablecoins. Est-ce qu'ils vont se dire, finalement les États-Unis vont là-dessus, donc on a intérêt à y aller aussi, il faut qu'on investisse ce champ-là, qu'on émette des stablecoins? Ou est-ce qu'ils vont se dire, finalement, c'est le cheval de Troie des Américains, donc on n'y touche pas, et on va créer des infrastructures souveraines ou entre les différents pays BRICS pour éviter justement Ethereum et les autres infrastructures blockchain.
Oui. Ça les embêterait, les Russes, si les Américains se désendettaient. Mais bon.
Oh, il y a beaucoup de pays qui seraient peut-être dans ce cas-là. Non, ce qui est important, c'est de se dire qu'ils ont quand même fait le Genius Act, dans les quelques prérequis qu'il y a pour émettre un stablecoin et pour être conforme aux lois américaines, c'est de le baser sur du dollar américain ou des bons du trésor. Donc pour le coup, c'est très stratégique, c'est intelligent. Et alors que beaucoup ont réglementé et mis des règles qui ont empêché le développement, aux États-Unis, très honnêtement, d'un point de vue financier, c'est une approche qui est super smart, qui paye et qui va probablement faire la différence sur leur dette dans les 2 à 3 prochaines années. Et ce sera très dur de venir reprendre les parts de marché qu'ils s'offrent aujourd'hui.
Oui, ce rendement des cryptos, il pousse plein d'entreprises, de plus en plus en tout cas, à en mettre en trésorerie. On a de plus en plus de bitcoin dans la trésorerie de certaines entreprises. On pense évidemment à MicroStrategy, mais MicroStrategy est de moins en moins isolée. Si bien que le Nasdaq s'en inquiète, c'est peut-être un gros mot, mais va renforcer sa vigilance sur effectivement l'évolution à venir de la trésorerie de ces entreprises qui choisissent de s'exposer intrinsèquement aux cryptos.
Oui, il considère que ça peut déséquilibrer finalement la situation financière au niveau des bourses. On a vu plus d'une centaine d'entreprises aux États-Unis qui ont réorienté leur stratégie vers de l'acquisition de crypto et en particulier de Bitcoin pour devenir des treasury companies, donc des entreprises dont la fonction principale est de stocker de la crypto, en particulier du Bitcoin, et donc de devenir une sorte d'ETF déguisé. On voit d'ailleurs ces mouvements-là en Europe aussi, hein, avec des entreprises qui acquièrent du Bitcoin ou de l'Ether, parfois pour renouveler un modèle économique qui ne marchait pas très bien. Et donc au niveau de la bourse américaine, ils commencent à s'en inquiéter parce qu'ils se disent, si on a une proportion significative des entreprises qui font ça, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec une part très importante des entreprises listées qui finalement sont des sortes d'ETF déguisés?
La réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui avaient des activités qui n'avançaient plus très vite, ils avaient perdu de la vélocité, et ça a permis de dynamiser le cours. En annonçant qu'on allait se lancer dans la crypto-monnaie, ça donne une excuse à quelques investisseurs pour rentrer, et autant vous dire que certains actionnaires qui avaient des titres qui dormaient, quand ils arrivent à faire 2 ou 300% de profit sur quelques jours, c'est le bon moyen de couper cette ligne dans son portefeuille. Et c'est surtout ça, je pense, qu'ils essayent de limiter. Les personnes qui profitent simplement par opportunisme d'une tendance et qui n'ont pas une réelle vocation à devenir une société qui crée des produits et qui les accumule sur une crypto.
On voit que les Américains avancent sur les cryptos, mais pas naïfs, hein, vigilants, puisque le Nasdaq va renforcer sa vigilance sur les trésoreries d'entreprises investies en crypto. Et puis on a aussi appris cette semaine qu'on revient à la SEC, le gendarme des marchés, que la SEC avait publié une feuille de route face au risque quantique également cette semaine.
Tout à fait, les régulateurs commencent à s'inquiéter face à ce risque, alors même que le consensus porte plutôt sur le fait qu'on a encore du temps face au quantique et que le quantique n'est pas une menace actuelle. Mais le régulateur anticipe et se dit d'ailleurs à juste titre que lorsque le quantique arrivera, il faudra que les migrations aient été faites. Il faut bien voir que sur le quantique, il y a deux sujets. D'une part, il y a la migration ou les forks au niveau des protocoles, pour lesquels le régulateur ne peut en réalité pas grand-chose. C'est aux communautés d'agir, de savoir quelle migration technique effectuer. Les protocoles ne sont eux-mêmes pas régulés. Mais ensuite, il y a des migrations techniques et des améliorations au sein des entreprises qui, elles, sont régulées. Donc, par exemple, ça peut être des migrations au niveau de la gestion des adresses, de la détention de crypto-monnaies. Et là, il faut que les acteurs soient prêts une fois que les infrastructures elles-mêmes auront été migrées.
Oui, et le Salvador, là-dessus, a fait un petit pas la semaine dernière.
Tout à fait, on en a parlé la semaine dernière. Ouais. Exactement.
Bon, voilà. Le quantique deviendra-t-il un jour une véritable la question n'est pas est-ce que, la question c'est quand je pense.
Ouais,
c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. C'est les pros des cryptos chaque semaine. Owen Simonin, Asher, combien d'abonnés?
777 700.
Ouais, ça c'était avant les pros des cryptos. Regardez en sortant, vous allez voir. Merci beaucoup.
Ça fait, je regarde avant maintenant.
Claire Balva, la directrice générale de l'ADAN aussi avec nous. Merci Claire.
Merci.
Et bon week-end à tous. À retrouver donc les pros des cryptos sur la chaîne YouTube et notre podcast et replay BFM Business. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.